session de rentrée par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 8 septembre 1995, première conférence.
Cette fête de la nativité de Marie. À l'Esprit Saint, je crois que je puis vous souhaiter à tous une excellente année de travail et de prière, ou de prière et de travail. Les deux ordres sont vrais. Alors, je dis un bonjour chaleureux à ceux qui étaient déjà là l'année dernière, les frères et sœurs et les étudiants. Et je salue, puisque je ne peux pas le faire autrement, j'espère bien que progressivement, je pourrai saluer chacun, personnellement, tous ceux qui sont nouvellement arrivés, les frères, les sœurs, et puis les étudiants. Ces trois jours sont consacrés à essayer ensemble de comprendre ce que nous essayons de faire ici pour la gloire du Père, par Jésus et par Marie, sous le souffle de l'Esprit Saint. Et pour l'Église, et pour les hommes. Le Saint-Père nous a tous mobilisés les années 95, 96, 97, 98, 99, en vue du jubilé de l'an 2000. Chacun, nous devons répondre à cet appel du pape, notre père, notre doux vicaire du Christ, comme dit Catherine de Sienne. Répondre à son appel pour l'unité, le mystère de l'unité, pas l'unité métaphysique de l'être, mais l'unité d'amour, l'unité telle qu'elle est vécue dans la très sainte Trinité. C'est bien le vœu le plus net du cœur de Jésus, dans sa grande prière de Fils bien-aimé, chapitre 17 de Saint Jean. Et le Saint-Père fait écho à cette prière. Et nous devons tous essayer d'y répondre. Or, l'unité, c'est sûr qu'elle est le fruit de la charité fraternelle. Et la charité fraternelle, nous la vivons éminemment dans l'oraison du matin, dans l'adoration et l'oraison de l'après-midi. Nous la vivons la prière liturgique. Et nous la vivons aussi par la recherche de la vérité. C'est cela qui doit tous nous unir et faire qu'ici, nous formons une petite église, le Saint-Père et le Concile ont appelé une famille chrétienne une église domestique. Alors, la famille religieuse et ceux qui sont à l'ombre de cette famille religieuse forment une église familiale de la Sainte Famille et toute divine dans la lumière de la très sainte Trinité, puisque tous nous tendons vers ce but, voir Dieu face à face, un jour qui est peut-être très proche, on ne sait pas, personne d'entre nous ne le sait, mais qui est peut-être très proche. Nous tendons tous vers cette vision béatifique. Nous sommes faits pour cela. Notre intelligence ne sera au repos, mais dans un repos divin, c'est-à-dire dans une extase. Elle sera parfaitement intelligente que lorsqu'elle verra Dieu. Et c'est cela qui fait notre unité au plan de l'intelligence. C'est que nous sommes tous convaincus que notre intelligence est faite pour cela. Vous savez, je vous l'ai rappelé plus d'une fois, cet article si important de Thomas d'Aquin à propos de la nécessité de la foi. Où il dit que la foi est nécessaire pour orienter notre intelligence vers la vision béatifique. Alors tous, je crois, ici, nous avons reçu ce don de la foi. Autrement, vous ne seriez pas ici. Et nous savons que cette foi qui nous a été donnée gratuitement, nous sommes responsables en face de Dieu de sa croissance. Et la croissance de la foi, c'est de nous rapprocher le plus rapidement possible de la vision béatifique. On a soif de voir Dieu. Une soif plus grande que celle de l'année dernière. Mais dans le prolongement de l'année dernière, pour ceux qui étaient ici, l'année dernière, pour ceux qui n'y étaient pas, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais déjà vécu d'une manière incroative et qui sera vécu d'une manière explicite cette année-ci à travers notre vie religieuse. Et pour invite tous à participer le plus possible à l'oraison du matin, à l'oraison du soir. Ils sont conviés non pas seulement au cours, mais ils sont conviés aussi à prier ensemble dans le silence pour que l'unité soit très forte. C'est évident, ils sont libres. Ils ne sont pas des moines. On ne leur donne pas ici, au point de départ, un habit monastique. On pourrait le faire. Dans le temps, ça se faisait. On pourrait le faire. Mais on ne le fait pas, parce que, pas à cause de la laïcisation, mais on ne le fait pas parce que il faut leur laisser plus de liberté. On dirait que c'est un accaparement aujourd'hui. On dirait qu'on veut déterminer avant le Saint-Esprit. Alors je ne veux pas. Mais on vit ensemble cette recherche de la vérité en vue de la vision béatifique. Dites-vous bien ça. Tout ce qui est en dehors de cette soif de vérité et de cet ordre vers la vision béatifique est exclu de notre recherche. Parce qu'on considère ça comme vain, vanum. Vous savez bien le terme grec, le terme latin vanum, exprime ce qui ne peut pas être finalisé. Tout ce qui est en dehors de la finalité est vain. C'est-à-dire, c'est un poids inutile. Alors il vaut mieux le déposer le plus vite possible pour s'alléger et avoir des ailes dans la recherche de la vérité. On est très farouche là-dessus. Il faut l'être. Si on cherche la vérité et la sagesse contemplative, il faut être très déterminé. Ça ne veut pas dire du tout univoque. Ça veut dire avoir soif de la vérité. Et tout ce qui nous conduit vers la vérité nous intéresse. Tout ce qui nous conduit vers la vérité. L'amour d'amitié qui se crée forcément quand on a tous la même intention de vie, la recherche de la vérité. On peut tous coopérer amicalement, fraternellement, dans cette recherche de la vérité, en respectant le rythme de chacun, le rythme des petites sœurs contemplatives. On ne va pas leur dire, après le coup, nous cherchons la vérité, on va aller avec toi. Non, vous verrez que les contemplatives quittent la salle dans le silence. Elle nous donne l'exemple. Elle porte un drapeau avec silence, recherche de la vérité. Recevons la parole de Dieu avec amour. Et je leur demande de porter ce drapeau et d'être fidèles à cela pour donner l'exemple. Les frères suivent leur sœur aînée, évidemment, et gardent le silence. C'est tellement important. C'est vrai, c'est une école de silence, en vue de l'amour, en vue de la recherche de la vérité. Pas le silence pour le silence, mais c'est important de maintenir ce climat. On n'est pas une université laïque. On est dans une recherche de la vérité, dans une recherche de sagesse, dans un monde qui ne cherche plus la vérité, qui ne cherche plus la sagesse, qui ne sait plus ce que c'est que la sagesse, qui croit que la sagesse est quelque chose de tout à fait abstrait, alors que la sagesse philosophique est ce qu'il y a de plus concret, un concret spirituel. Le concret spirituel, c'est la vie de notre intelligence et de notre cœur, de notre volonté. C'est être ordonné entièrement vers la vision béatifique. Puisque nous sommes chrétiens, ordonné vers la recherche de la recherche de la vérité au niveau de notre philosophie. Nous savons qu'être chrétien, être catholique, ne gêne en rien la pureté de la recherche philosophique. Si notre intelligence, petit à petit, s'ouvre vraiment à cette recherche de la vérité, on distingue nettement les différents paliers. On verra ça progressivement. Parce que ça, c'est très important pour éviter tous les équivoques. On est ici dans une vie monastique, mais on est persuadé que ce climat de la vie monastique est le meilleur des climats pour la recherche de la vérité. Parce que ça permet une recherche qualitative de la vérité, comme on peut la faire nulle part ailleurs. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore convaincus de cela. J'espère qu'à la fin de l'année, ils le seront. Parce qu'il faut être loyal. Et je vous dis loyalement ce que nous faisons, ce que nous désirons faire, ce que nous tendons à faire, et tous nous y coopérons. Il ne faut pas croire que c'est celui qui enseigne qu'il fait. C'est ceux qui écoutent et qui coopèrent à cet enseignement qui le font. Ça, c'est très important de comprendre la responsabilité de chacun. Chacun, nous sommes responsables du climat de recherche de vérité. Chacun, nous sommes responsables, en tant que chrétiens, de rechercher cette orientation vers la vision béatifique, qui doit être toujours présente. Je ne répéterai pas à chaque cours, hein. Vous comprenez bien, mais il y aura la prière. Et c'est pour ça qu'on dit la prière. Les philosophes grecs, quand c'était très difficile, s'arrêter et prier. Ils n'avaient pas la foi. Mais ils savaient que Dieu existe, et que Dieu est vérité, et que Dieu est lumière. Alors si nous, chrétiens, ne sommes pas capables de ça, c'est triste. Et là, c'est ce qui se fait aujourd'hui. On fait une séparation entre la recherche philosophique et la vie chrétienne, alors qu'il n'y a pas de séparation, il y a une distinction. Alors vous verrez que le mal le plus grand, c'est de confondre distinction et séparation. Le mal le plus grand de notre monde d'aujourd'hui. Il faut arriver petit à petit à bien discerner cela. Notre intelligence toi de patrême est suffisamment fort, suffisamment lumineux, suffisamment élevé pour emporter tout le reste. C'est un torrent impétueux, ce vadois de patrême, qui doit nous emporter et qui charrie tout ce qui peut être emporté. Alors c'est là où on distingue. Il y a des choses qu'on ne peut pas, mais on les laisse tomber pour avoir une intelligence de plus en plus pénétrante, perspicace. Vous savez bien, c'est comme ça que saint Thomas qualifie la sainteté propre de saint Jean, la perspicacité de l'intelligence. Il met ça en premier lieu. En second lieu, la pureté du cœur. C'est très beau, ça, de mettre en premier lieu la perspicacité de l'intelligence. Alors c'est ça que l'Esprit Saint nous propose à chacun d'entre nous. Voulez-vous avoir une intelligence perspicace? Si vous ne le voulez pas, mettez-vous tout à fait dans le fond, dans les dernières chaises, et puis dormez. Si vous cherchez la perspicacité de l'intelligence, vous devez chaque fois vous réveiller à chaque cours de philosophie et dans votre travail philosophique. C'est la seule chose qui doit vous réanimer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça caractérise l'école Saint-Jean. Pour les mettre ça, voyez, comme programme. Tous ceux qui cherchent la perspicacité de l'intelligence, venez chez nous. Si vous ne cherchez pas la perspicacité de l'intelligence, allez autre part. Et alors, autre part, je ne le précise pas, parce qu'ils sont multiples, à tous les degrés. Le Saint-Père veut que nous faisions cette recherche. Il veut qu'ici, il y ait une recherche de la vérité dans ce qu'elle a de tout à fait premier et ultime. Ça se tient, alpha et oméga. Et ça, c'est très beau. Il veut. Il m'a dit une fois, « Père, dites-moi où on enseigne encore une vraie métaphysique. » C'était difficile pour moi de répondre. Parce que je crois, hélas, qu'il y en a beaucoup qui la cherchent. Mais il y en a peu qui ont eu le courage de travailler Aristote comme Thomas d'Aquin, ligne par ligne. Il a fait ça. Et pour Thomas d'Aquin, le philosophe, c'est Aristote. Et pour Hegel, il faut bien le nommer, puisqu'il faut être à l'ordre du jour. Aristote, seule forme. Alors, nous ne faisons pas une copie, un reflet de la pensée d'Aristote. On s'en nourrit constamment. Et toujours plus pour aiguiser notre intelligence. intelligence devienne perspicace. C'est-à-dire pénètre de plus en plus dans la réalité. Et la réalité la plus parfaite, c'est l'homme, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, c'est vous. C'est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter. En disant bonjour à un homme, vous expérimentez la réalité la plus parfaite que vous pouvez expérimenter. Ça fait que le bonjour métaphysique, vous voyez, est très, très grand. On respecte la dignité de la personne humaine en considérant que c'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Mais j'expérimente la réalité humaine lentement. C'est pour ça que notre philosophie réaliste est toute tournée vers l'homme. Et étant tournée vers l'homme, elle se tourne vers ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. Ce pourquoi l'homme est fait. La recherche de la vérité. L'amour de la vérité. Et cet amour de la vérité nous conduit à la découverte de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. La laïcité telle qu'elle est vécue en France, hélas, jusque dans la recherche philosophique, est une catastrophe. Puisque c'est mutiler l'homme. Et en mutilant l'homme de ce qu'il a de meilleur, on en fera un animal supérieur, pas plus. On n'en fera pas un fils de Dieu. On en fera un animal supérieur qui n'a pas d'autre désir que de dominer sur les autres animaux supérieurs. Et de vouloir manifester son pouvoir et de rechercher par là sa gloire. On en est là. Et c'est pour ça qu'ici, nous essayons de comprendre. Je dis bien, il faut bien comprendre que la laïcité, parce qu'il y a une bonne laïcité, le droit canon parle des laïcs chrétiens, donc il y a une laïcité qui peut être baptisée, il y a une laïcité qui ne peut pas être baptisée. La laïcité qui peut être baptisée, c'est celle qui reconnaît que l'homme, dans sa dignité supérieure, est fait pour découvrir l'existence de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, de découvrir le Créateur. Cette laïcité peut être baptisée, et c'est celle-là que nous cherchons en philosophie, parce qu'on recherche tout ce que l'homme est capable de faire par lui-même avec le secours de la grâce de Dieu, c'est évident, mais tout ce qu'il peut faire par lui-même selon les dons que Dieu lui a donnés naturellement. On recherche tout ce qui est naturel. L'autre laïcité qui implique les idéologies athées ne supporte pas la dimension religieuse, ne supporte pas que l'homme soit fait pour Dieu et considère que l'homme est fait pour lui-même et qu'il doit être son propre sauveur. Le sauveur des autres, s'il le peut. Il y a une séparation totale entre la nature humaine et la foi. Il y a la négation de l'attitude religieuse. Parce que l'attitude religieuse est un métaxu, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'humain et le divin surnaturel. C'est ça la grandeur de cette zone religieuse. Et c'est pour ça que c'est important de découvrir dans le monde d'aujourd'hui le caractère propre de cette zone religieuse que nous portons en nous, naturellement. Mais on peut l'éteindre. On peut l'éteindre chez un petit enfant qui grandit. On peut très bien arriver à éteindre toutes ses aspirations religieuses et à faire que l'homme ne soit plus qu'un animal supérieur. Par les mathématiques. Parce que les mathématiques n'impliquent pas l'attitude religieuse, tandis qu'une vraie recherche de la vérité l'implique. Et c'est le primat des recherches scientifiques qui dépendent toutes des mathématiques. C'est ce primat qui devient comme un absolu, qui fait que l'attitude religieuse est bannie et rejetée, et qu'on voit l'homme comme un scientifique dans l'ordre biologique, dans l'ordre physique, dans l'ordre nucléaire, et ainsi de suite. Il est son propre maître. Transcende tout le monde physique, tout le monde matériel, mais il le transcende d'une manière qui n'est pas une vraie transcendance, qui est simplement une domination. La vraie transcendance, c'est d'atteindre une réalité qui, elle, est au-dessus de soi-même relatif. Cette transcendance, c'est une personne, c'est une réalité qu'on découvre et qu'on adore. Vous n'adorez pas la transcendance mathématique, parce que c'est la transcendance mathématique qui fait comprendre comment on peut dire que la subjectivité est transcendantale. Le métaxu, c'est les mathématiques. Ou la logique, ce qui revient au même. L'universel, c'est ou l'être mathématique ou l'universel. Donc, j'espère que vous voyez bien l'objectif. On va préciser progressivement l'objectif que nous nous donnons ici. Recherche de la vérité au niveau philosophique pour pouvoir répondre à toutes les erreurs de notre monde d'aujourd'hui. réaliser une vraie théologie qui met l'intelligence au service de la foi. Mais si je mets une intelligence erronée, amputée, au service de la foi, je diminuerai ma foi. Le croyant qui met au service de sa foi une philosophie qui ampute l'homme de ce qu'il a de meilleur, cette théologie ramène la foi à une dimension inférieure, à une dimension laïque, et progressivement la théologie se laïcise et n'est plus qu'une recherche dialectique. Je crois que c'est toute la différence de la dialectique et de l'analogie qui perpétuellement met l'intelligence au service de la foi, une intelligence qui cherche la vérité. Donc ici, pendant cette année-ci et pendant les autres années, si Dieu nous laisse vivants, nous cherchons la vérité tout court. Vous allez poser, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Ayez une feuille blanche qui pose, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Et successivement, dans la recherche que nous faisons ensemble, cette feuille blanche se précisera. Ah, la vérité, c'est ça. Ah, la vérité, c'est ça. Ah, la vérité, c'est ça. Il n'y a pas de définition de la vérité. Il y a une découverte de la vérité. Et quand on découvre la vérité, on se laisse posséder par la vérité. Et on ne la possède jamais. On la contemple. C'est pour ça que la philosophie n'est pas un système. Elle aboutit à une contemplation. Si on possédait la vérité, elle serait un système. Elle serait dialectique. La dialectique veut posséder la vérité. Il cherche à la posséder. Tandis qu'au contraire, l'analogie, vous comprendrez petit à petit ce que c'est. Là aussi, ayez une feuille blanche. Analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie ? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit analogique ? C'est un esprit qui respecte le réel, comme la vérité. La vérité, c'est reconnaître que la réalité existante est antérieure à moi. Je suis né dans un monde qui existait avant moi. Le monde est un vieillard pour moi et je le respecte. Il a beaucoup à m'apprendre. Le monde, c'est moi en tant que j'existe. Je fais partie de ce monde. Et la réalité en tant qu'elle existe mesure ma recherche philosophique. Et ma recherche philosophique est vraie dans la mesure où elle est conforme à cette réalité. Oui, et c'est bien au cœur de notre recherche philosophique, la vérité. Puisque c'est ce qui nous permet de discerner ce qu'il y a d'authentiquement philosophique et ce qui ne l'est pas. Toutes les bavures, toutes les poussières, toutes les saletés, tous les mensonges, je les rejette. cherche à être de plus en plus dans cette vérité, à être vrai par rapport à cette réalité que je suis dans mon exister. Je suis dans le monde. Et je cherche à comprendre pourquoi ce monde, pourquoi l'homme dans ce monde, pourquoi l'homme capable de connaître ce monde, de le reconnaître, capable de l'aimer. Et l'homme capable progressivement de découvrir l'être premier. Et donc la vérité, en définitive, ce sera d'être en conformité avec l'être premier. Mais voyez, il y a deux paliers de la vérité. Ne mettez pas tout de suite comme premier palier être en conformité avec l'arité première, Dieu, puisque vous ne l'atteignez pas directement. Et tout est là. Et il n'y a pas 36 positions philosophiques. Il y en a toujours trois. Ceux qui croient atteindre directement Dieu. Ceux qui nient l'existence de Dieu, les deux extrêmes. Et ceux qui mendient la vérité à travers la réalité visible, à travers l'homme. Et qui progressivement découvrent l'existence d'un être premier. Et alors à ce moment-là, ils reconnaissent bien qu'il y a deux niveaux de la vérité. Et c'est l'analogie qui est l'escalier interne, l'escalier dérobé, qui me permet de marcher progressivement jusqu'à Dieu. Et à chaque marche, je sais que c'est juste, je sais que c'est juste, et je monte progressivement pour découvrir l'être premier. C'est cette vérité, c'est cette philosophie réaliste qui a été donnée d'une manière étonnante à Aristote, que Thomas d'Aquin reconnaît comme le philosophe. Donc, tous ceux qui ne cherchent pas à découvrir la réalité d'une manière vraie ne sont pas fidèles à Thomas d'Aquin. Et tous ceux qui ne respectent pas ce maître mort qui est Aristote risquent de dévier et n'être pas dans la pensée de Thomas d'Aquin. Alors voyez, le milieu dans lequel nous sommes est un milieu de prière. Ce milieu de prière, parce qu'il est transcendant, divin, ne fait pas nombre avec mon intelligence qui cherche la vérité. Et je peux à chaque instant discerner ce que mon intelligence est capable d'atteindre par elle-même et ce qui m'est donné gratuitement par la foi. Parce que le philosophe doit savoir à chaque instant où il se situe, à la différence du croyant. Le croyant, il accepte de ne pas voir. Vous allez me dire, ça c'est facile, hein ? Ça favorise la paresse. J'accepte de ne pas voir, je me laisse guider. Je suis un très bon novice. J'abandonne toutes mes opinions et je n'ai plus qu'une seule opinion, celle du Père Maître. Et vous seriez un très mauvais novice si vous faites ça. que je puis accepter la sainte ignorance de la foi, la sainte obscurité de la foi. Mais en face de l'opinion des hommes, je n'ai pas le droit d'abdiquer mon intelligence. Ceci, c'est très net. Et ça doit être très net. Petit à petit, hein. Pas peut-être maintenant, mais petit à petit, il y a une orientation vers laquelle nous tendons. Alors, je précise encore, tous nous sommes attelés à la même recherche. Les cours doivent être pour nous tous une recherche ensemble. On coopère au cours. On n'est pas passif. On coopère. On reçoit, mais on assimile. Et en assimilant, on progresse. Alors, ce que nous avons trouvé de mieux, c'est que pendant les cours, on ne lève pas la main pour communiquer la grande découverte qu'on a faite. Je faisais ça au début. Et je l'acceptais. Puis beaucoup, beaucoup m'ont dit, mais mon père, c'est assommant. Parce que il y en a qui ont des intuitions toutes les 5 minutes. Et alors qu'ils cessent de demander la parole. Et on ne progresse pas. Alors, on fait le cours le plus intelligible possible. Et comme disait ce vieux professeur, je peux vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. C'est Dieu qui vous la donne, l'intelligence. Et demandez à Dieu de la donner. Si vous êtes ici, Dieu veut vous la donner. Soyez-en sûr. Dieu veut vous donner l'intelligence pour que l'intelligible donné au cours soit reçu aimablement. Mais dans les cours, au début surtout, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a le langage. Dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, notez-le. Et vous demanderez à vos parrains, pas de baptême, mais à vos parrains de sagesse de vous éclairer. Il faut que le langage philosophique petit à petit soit intelligible pour vous. Donc, j'ai encore 5 minutes. Évidemment, le petit déjeuner commence à chauffer. Et vous offrez agréablement à Dieu ces 5 minutes de chauffage du petit déjeuner. Même si vous avez très faim, tant mieux. Vous notez tous les mots que vous ne connaissez pas. Au début, ça fait quand même quelque chose. J'ai demandé. Chaque année, je le redis, j'aimerais avoir un petit dictionnaire pour donner aux ceux qui arrivent. Voilà les mots philosophiques qu'on emploie à Saint-Jodard. Alors il faut, alors ceux qui sont les parrains, récolter ces mots. Parce qu'au bout d'un certain temps, on n'aperçoit pas. Et un Chinois parle naturellement chinois. Et celui qui l'écoute et qui n'est pas chinois dit, c'est du chinois. Ceux qui sont en philosophie parlent naturellement le langage philosophique. écoute, Paul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du chinois. Alors, on essaie de faire que, progressivement, on comprend ce langage le mieux possible. Deuxièmement, il n'y a pas que le langage, il y a la réalité. Quand il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous ne comprenez pas, notez-le. Et vous mettez vos questions à celui, il y en a peut-être beaucoup, il y en a différents dans chaque groupe. Vous lui communiquez cela. C'est gratuit. Donc ça vous aide à le faire librement. Et puis j'essaie de répondre à ces questions. Parce que je crois que toute interrogation exprime la dignité de l'intelligence et il faut y répondre. Je n'aime pas d'éteindre les interrogations. On est péripatéticien. Si on est péripatéticien, on a le droit d'interroger et on reçoit la réponse. Si j'étais platonicien, je dirais n'interrogez pas, suivez. Et au bout d'un certain temps, vous suivrez. C'est vrai que l'interrogation est typique d'une philosophie aristotélicienne. C'est pour ça que c'est si difficile d'interroger une philosophie néo-platonicienne. C'est quasi impossible. On vous dira, mais entrez dans la dialectique. Entrez. N'interrogez pas. Et donc, c'est une université. Il n'y a pas cette analogie propre à la vie de l'intelligence. Alors, les questions, il faut toujours noter ces questions. Il faut toujours avoir une petite feuille de papier sur laquelle on note les questions. C'est bon. Alors, cette question, vous la posez à votre parrain. Et si le parrain ne sait pas y répondre, lui, second degré, il pose ici. Pour qu'il y ait une vraie coopération, une vraie recherche commune. C'est tellement important. Alors évidemment, au début, acceptez au début que ce ne soit pas commode. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. On essaiera de faire un cours goutte de lait de temps en temps. Ou ce sera le père Marie-Dominique ou l'autre Marie-Dominique, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance qu'il fera. C'est un cours que j'aime beaucoup, moi. Répondre à toutes les questions, et surtout aux questions de ceux qui commencent. Qu'est-ce qui les intrigue, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il faut très vite votre travail personnel. Alors, très très vite, les parrains doivent indiquer les quelques livres qui sont bons à lire. Ça, je crois que c'est très important. Durant votre année, en première année, en seconde année, en troisième année, il y a toute une série de livres qu'il faut lire. S'ils ne sont pas lus, mais vous les lirez. L'année suivante, ça augmentera. Je crois que ça, c'est très important. On essaiera de faire une petite feuille de papier. Elle est déjà faite, je crois, en partie, pour que vous puissiez voir là les livres nécessaires à lire. Mais à lire, non pas comme un feuilleton roman, le soir avant de s'endormir, mais à lire sur sa table de travail, la plume à la main, comme on lit une encyclique, avec l'analyse qu'on doit en faire. Et ce serait même très bon que vous en fassiez vous-même un petit résumé.